Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Et nous sommes de retour pour cette partie bibliothèque. C'est le lendemain pour ceux qui l'écoutent en replay, puisque je l'aurais publié en deux jours, évidemment. Je suis devant. Je sais d'avance ce qui va se passer en futur. Voilà. Donc, petit rappel, hein, nous avions coupé l'émission, puisqu'il ne nous restait que 18 minutes avant que le stream s'arrête, et 18 minutes pour faire la partie bibliothèque était vraiment trop court. C'est pour ça que nous relançons une deuxième partie d'émission pour qu'on ait un peu plus de temps de détailler cette partie bibliothèque qui va se concentrer sur les affrontements de super-héros. Je pense qu'il nous fallait bien 3 heures pour traiter ce sujet.
Minimum.
Et d'ailleurs, Sam a prévu de parler pendant 1 heure non-stop, juste pour voir s'il peut le faire.
Juste pour voir si ma voix tient le coup jusque-là, je garantis que non.
Bref. Avant même de parler des affrontements de super-héros, parlons de l'actualité récente.
Qui nous a mené à ce sujet de bibliothèque. Il sort bien évidemment de nulle part.
Et comme le mois dernier, vous allez assister à un affrontement. Et là, cette fois-ci, ce sera un affrontement parce qu'ils n'auront pas exactement le même avis. Un affrontement entre deux camps que tout oppose.
Mais je pense que même pas du tout. C'est-à-dire que c'est... Je pense que...
On a d'un côté un homme, de l'autre côté... Une femme. D'un côté...
À barbe.
La sagesse. De l'autre côté, la jeunesse.
Mais parce que Sam est très jeune.
Sam, rassure-moi, as-tu la barbe?
Par contre, je crois pas que Laure veuille rester sage.
Nous avons d'un côté un barbu, de l'autre côté un vegan du poil. J'essaye de teaser au maximum les gens, là, je rends le truc épique. C'est une véritable civil war dans l'équipe et ça va être ce qui va nous intéresser, justement. On a la team Iron Man, la team Captain America. Je ne sais pas qui est qui. Je vous avouerai que peu m'importe, tant qu'ils se foutent sur la gueule en direct, moi, c'est ce qui me plaît.
Alors, là, genre Steve, il est en tremble devant son PC.
Ah, mais là, j'ai une érection totale. Voilà, j'en peux plus. Tout ce que je vous demande, c'est pas de coups bas ou alors attendez que je puisse sortir l'appareil photo.
Ah, ben, des coups bas, c'est pas pour moi, c'est plus pour Sam. S'il en prend un, ça va faire mal.
On va y aller franco, hein, mais un coup de latte dans la moule, ça fait quand même super mal. Hein.
Je sais pas, j'ai jamais testé.
Ah, ça fait pas du bien, non.
Bah, tu vois, tu vois.
Ouais, mais ça fait plus mal chez les mecs, je pense.
Ah, c'est bah, autre débat que l'on aura un autre soir, peut-être la bibliothèque du mois prochain.
Faut faire un protocole expérimental pour qu'on le teste. Hein.
Là, en tout cas, affrontez-vous sur ce film. Bah, déjà, résumé en deux mots, Sam, tu as aimé.
Oui.
Et beaucoup. Laure, beaucoup moins.
Oh. Pas déçu, mais presque.
Voilà. Hérétique
toi-même.
Alors, rassurez-vous, chers auditeurs, je le préciserai aussi dans la description, hein, mais on va rester le maximum spoiler-free. Le film vient de sortir. Voilà, il y aura très peu. Il y en aura peut-être, mais il y aura très très peu de spoil parce qu'on ne veut pas vous gâcher la surprise.
Moi non plus, il n'y en aura pas de mon côté parce que je prône le fait qu'on peut faire une review, une critique sans spoiler. C'est tout à fait possible. Donc,
Exactement comme on avait fait le mois dernier avec Batman vs Superman où voilà, on essayait vous essayez d'argumenter au maximum sans trop dévoiler les surprises et les moments marquants parce que voilà, on sait très bien, nous-mêmes, on est les premiers vexés quand on se fait spoiler, Sarah, surtout sans être prévenu, on va pas vous l'imposer à vous. Voilà, on a un minimum de respect de nos auditeurs. Sur ce, je vous laisse, je coupe mon micro et je me délecte du spectacle.
Prends du popcorn. Vas-y, Sam.
Pas des popcorn, mais des Doritos, parce qu'on est sponsorisé quand même.
Merci. Et l'argent, on a le chèque quand ?
À la fin du mois.
Mais moi, je l'ai déjà touché et encaissé, mais vous, vous allez vous faire foutre.
Pourquoi c'est toujours comme ça sur ce site ?
Oh,
ça balance.
Oh, ça m'aurait pas plu.
Moi, le pauvre gars qui peut jamais aller en convention.
Bon, finalement, c'est toi, Steve, qui va en prendre la tête.
Ah oui, boucaque moi. Pardon. Non, je suis désolé, Steve. Je sais pas
Civil
ce qui
se passe.
Oh.
Donc Civil War.
Oh, alors ça, c'était joli, Corwin. J'avoue, c'était beau.
Vas-y, Sam, honneur aux dames. Je t'écoute.
Bah, je t'écoute, donc. Étant donné que mon appareil génito-reproducteur est toujours là...
Ah bah ça, j'en sais rien, moi.
Je confirme qu'il est toujours là. Oui, c'est bon.
Vas-y, d'abord balance le côté positif à tes yeux.
Alors, à mes yeux, je vais commencer par le côté ironique de la chose, du film, puisque, comme vous le savez, il y a un mois, nous avons eu un autre film qui mettait en scène une bonne grosse baston entre super-héros, enfin techniquement. Ce qui m'a frappé à la vision du film, c'est que thématiquement, les deux, outre le sujet baston super-héros, thématiquement c'est très proche, voire quasi identique. C'est-à-dire, on a une trop grande puissance de la part du côté des héros qui doit être contrôlée.
J'ai pas vu spécialement ça dans BVS.
Si. Bah si. Toute la raison pour laquelle Batman veut buter Superman, on a ce super-héros qui est ultra puissant, au-dessus de tout, inarrêtable et complètement incontrôlable. Et on a cette idée aussi quand le film démarre. Alors là, je ne révèle rien puisque c'est dans le synopsis officiel. On va pas dire que les Avengers sont un raté, mais on a une volonté des gouvernements du monde de vouloir contrôler leur activité. Et que ils répondent en fait de leurs actions devant une espèce de commission internationale.
Ouais, enfin, spoil là, on peut même pas parler de spoil. Je veux dire, c'est l'histoire de base de Civil War. On est entre lecteurs de comics. Enfin, tout le monde connaît un minimum l'histoire de Civil War. Ça me paraît logique. C'était aussi l'histoire de un petit peu d'Ultimates, quoi.
C'est ça. Donc, c'est ça qui lance tout. Donc,
pour moi, c'est pas du tout un spoil hein, d'annoncer ça.
Très bien. Donc, c'est pour ça que ça m'a semblé ironique, c'est-à-dire que tout ce que rate Batman vs Superman dans la mise en place du conflit entre les deux personnages, c'est-à-dire l'espèce de montée en puissance, les raisons de chacun, le combat en lui-même, est complètement réussi sur Captain America.
Dans BVS, c'est pas du tout raté la montée en pression et l'installation de ce thème-là. Pendant une heure et demie, ils se tournent autour. Pendant une heure et demie, il y a une sorte de... Ils enquêtent l'un sur l'autre, ils se tournent autour. Je trouve ça
oui,
pas
mais on
du tout raté.
Plus.
C'est
on
le seul
plus.
Truc qui est réussi dans le film, je trouve.
Moi non, justement. Justement, moi, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a dérangé, comme je l'ai dit. Dans Batman v Superman, on n'a pas un film, on en a plusieurs. On a des morceaux disjoints les uns les autres qui sont rassemblés pêle-mêle dans une espèce de pot-pourri à la fin.
Bah, moi, j'ai eu cette impression-là avec Civil War.
Pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un film vraiment unifié où chacun des personnages réagit effectivement à cette nouvelle loi qu'on leur impose, certains qui l'acceptent, d'autres qui se rebellent contre, et on a vraiment un débat à l'intérieur du film sur le sujet où chacun donne ses raisons.
Ben moi, tu vois, c'est ma grosse bête noire de Civil War, justement, c'est que t'as l'intrigue principale, donc les accords, pour en gros encadrer les super-héros, t'as l'intrigue principale. Après, ça part à droite, t'as une sous-intrigue dans l'intrigue. Puis, dans la sous-intrigue, t'as une autre sous-intrigue. Et ça repart comme ça. Ça fait un mini-mélo de tout, là. Et c'est n'importe quoi. Enfin, ça part dans tous les sens.
Eu ce sentiment.
Surtout qu'il y a plusieurs gros sujets qui ont été traités, quitte à bâcler certaines choses. Enfin, je peux pas trop en dévoiler parce que c'est quelque chose qu'on voit pas dans la bande-annonce. Et qui, je trouve, ils auraient dû soit traiter le sujet Bucky qu'on voit dans la bande-annonce, soit l'autre sujet.
Parce que tout est lié.
Oui, mais tout est lié, mais d'une façon bâclée.
Ah, je trouve pas du tout.
Et au final, plus ça va dans le film, plus on s'éloigne du sujet principal.
Je trouve pas du tout.
Je, en fait,
Je
je sais
trouve
pas
qu'on
comment
reste sur le
l'expliquer sans
sujet tout le temps.
spoiler, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, donc du coup, je dis rien, mais il y a
Pour
des
moi,
éléments quand tu
c'est-à-dire
vois
que
le
je...
début, enfin l'intrigue principale et certains éléments à moitié du film et vers la fin, tu te dis putain, mais ça part dans tous les sens. Tout est bon pour se foutre sur la gueule, en fait. Tout est une raison pour se foutre de la gueule. T'as des éléments qui surgissent. Alors certes, c'est très intéressant et ça amène du piment, mais t'as rien à foutre là, quoi. Enfin, c'est soit
Moi,
ils
je trouve pas du tout.
traitaient.
Je trouve au contraire, pour moi, ça marche parce que c'est une suite qui est logique, d'une part par rapport au film Winter Soldier et d'autre part avec Age of Ultron. On a là des idées qui se recoupent et qu'on n'aurait pas compris qu'elles ne soient pas traitées.
Mais justement, c'est la question que j'allais poser. L'extérieur nous demandait sur le chat, est-ce que le fait d'avoir 12 films avant n'aide pas aussi à la mise en place?
Si, puisque c'est-à-dire que, comme on le disait sur Batman vs Superman, on a plusieurs films qui essaient de marcher ensemble alors que non. Voilà. Il aurait fallu avoir plusieurs films effectivement pour avoir la montée en puissance. Là, on a plusieurs éléments qui fonctionnent de manière indépendante dans plusieurs films différents, mais qui se rejoignent ici de manière complètement logique.
Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est trop, en fait. Ça part dans tous les sens. Ça m'a gâché. Enfin, vraiment, je peux pas dire. En plus, quand tu vois les sous-intrigues, enfin, il y a une sous-intrigue. Alors, quand, enfin, elle est mal exploitée, mal travaillée. Ça a rien à. Enfin, ça amène, voilà, comme tu dis, ça, c'est logique, ça coule. Enfin, voilà, ça s'emboîte avec le reste. Mais si c'est pour le faire de façon aussi bâclée, c'est pas la peine de le faire. Soit tu le traites sur notre film, soit tu le traites pas du tout. En fait, c'est ça qui m'a gênée. Ils ont voulu faire plein de sous-intrigues.
Non, pour moi, il n'y a qu'une seule sous-intrigue et elle est liée à l'intrigue principale, puisqu'elle la met en place.
Enfin, je me doute de laquelle tu parles, vu que tu ne cites pas. Mais je trouve que déjà, la chute, elle est pourrie. Voilà quoi. Enfin, la chute est vraiment bâclée.
Non, non.
Mais à la
Parce
limite,
que, encore
si.
une fois, on a quand même d'énormes conséquences à la fin du film sur l'équipe des Avengers. On a un conflit qui était sous-jacent entre deux personnages depuis un moment, qui est exploité à pleine mesure, et où on a plusieurs prises de conscience qui sont effectivement menées à leur terme, en fait, à leur terme logique.
Moi, j'ai pas. Franchement, comme je te dis, j'ai trouvé ça trop méli-mélo. Et je trouve que malheureusement, un des combats de fin qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, la cause de de cette baston-là, je trouve qu'ils auraient pas dû la mettre là, en fait. C'est trop, c'est l'élément de trop. La baston est géniale, hein, il n'y a rien à dire sur toutes les bastons du film. D'ailleurs, elles sont impressionnantes. Enfin, autant Captain America 2, je le trouvais génial en termes de fight, mais le Captain America 3 est juste,
Oui,
mais
c'est l'étape
génial, il
au-dessus.
n'y a rien à redire, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais les raisons, voilà, de celui-là en particulier, je trouve que quand on compare avec l'intrigue principale, ben quand tu prends du recul, tu vois qu'en fait le film, il tisse le fil, et puis de plus en plus au final, tu vois qu'ils sont vachement éloignés, et ça m'a gêné parce que du coup, après, c'est peut-être moi qui suis débile, mais je savais plus où donner de la tête, tu vois. Enfin.
Non, moi
Ça, c'est la
j'ai pas du
3D
tout
qui
été
fait ça.
perdu. Ah, la 3D m'a fait super mal aux yeux et était
Ah,
complètement inutile.
la 3D était bon, pas mal, mais sur les plans serrés de moments de baston, par exemple sur une des premières bastons du film, sur les plans serrés, ça c'était trop rapide, ça faisait super mal aux yeux.
Oui, bah en fait,
À
j'ai eu le
éviter.
même
Hein.
problème avec Winter Soldier lorsque je l'ai vu au cinéma la première fois. C'est-à-dire que j'avais vraiment du mal avec les scènes de combat rapprochées. Et ce n'est qu'en revoyant le film en Blu-ray chez moi, en fait, que je me suis rendu compte que les scènes étaient très lisibles, en fait. C'est juste que c'est l'effet cinéma qui était complètement pourri.
Oui, puis c'est l'effet
Ouais.
3D souvent qui
Il
ajoutait.
faut aller le voir en 3D, quoi.
Par contre, si
Si
vous
tu peux
avez
éviter. Ah,
le.
mais moi j'ai pas le choix là.
Non, mais
Si vous
t'inquiète pas,
avez
Sam, je comprends.
l'occasion.
Un petit cinéma de province, moi c'est pareil, c'est VF 3D obligatoire et hors de question de voir les films dans cet état-là, quoi.
Si vous avez l'occasion, que si vous avez un CGR à côté de chez vous, je vous conseille d'aller. Alors moi, généralement, je vais au cinéma en bas de chez moi, à Gaumont. Mais là, pour le coup, je suis allée le voir dans un CGR. Ils ont le son immersif et c'est juste génial. C'est terrible. Donc si vous avez l'occasion, petit conseil, vous pouvez sauter la 3D et voir en son immersif, c'est parfait.
Petite question justement qui me taraude. vu qu'il y a, vous qui avez vu le film, du coup, vous pourrez sûrement y répondre. Je sais que ça part d'un principe bête, mais si quelqu'un n'avait pas vu les films précédents, pourrait-il voir ce Captain America 3 sans être trop largué ?
Si, parce que les éléments sont réintroduits au début. Donc il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie de la continuité pour comprendre ce qui se passe.
Pour la partie Bucky, un minimum, quand même. Au moins le 2, pas forcément le... Pas forcément le 1, mais au moins le 2.
Je me pose la question, personnellement, parce que les réalisateurs et le scénario donnent énormément de clés pour comprendre.
Oui, mais...
On comprend les liens avec, on comprend les liens avec Steve Rogers, on comprend que... il était l'esclave de l'Hydra pendant des années. Voilà, on comprend.
Oui, sur la partie Steve et des accords, il n'y a pas de souci, mais c'est sur la partie Bucky où, à la limite, ça me. Pourquoi pas voir le 2 quand même avant ?
Autre petite question, en termes de. Alors, vous en parliez tout à l'heure, hein, on parlait de la lisibilité de la 3D. Là, je vais vraiment parler de la lisibilité de la réalisation et le comparer une fois encore. Je sais que ces deux films n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais je les compare simplement parce qu'en date de sortie, ils sont vraiment très proches. En termes de lisibilité entre Batman vs Superman, que beaucoup de nos auditeurs auront vu...
Oh, c'est beaucoup plus lisible.
À quoi peuvent-ils s'attendre pour celui-ci ?
En termes de baston, c'est beaucoup plus lisible. Parce que personnellement, la scène de baston finale, Batman vs Superman, très sincèrement, je n'ai rien compris. Et c'était regardable. C'était une confusion absolue.
En plus, avec la patte Snyder, tu sais pas, comment on dit, où est le cucu, où est la tête-tête, quoi. Donc,
voilà. C'est un peu le problème. Alors que là, franchement, même, je dirais, la scène la plus impressionnante, et on entend beaucoup parler, c'est effectivement la scène de l'aéroport, où il y a énormément de personnages, parce qu'on a quasiment tout le monde qui est là et qui se lance dans une baston complète.
Même ça, il
reste lisible. Tu sais quoi regarder, tu sais qui regarder, tu sais ce que tu regardes. Voilà, ils ont compris comment agencer l'ensemble.
As-tu une question peut-être, Corwin, par rapport à ce film, sans trop de spoil évidemment, parce que je sais que tu vas aller le voir bientôt. As-tu quelque chose à leur demander, eux qui l'ont vu ?
Ah bah, question très con. Par rapport au matériel original du comics, alors je sais bien que c'est inspiré, mais dans le comics, on avait un réel souffle épique avec tout l'univers Marvel qui se foutait sur la gueule. Là, on a quand même beaucoup moins de héros. Est-ce qu'on arrive à retrouver ce côté-là ?
Oui.
Oui. Ouais. Mmh. Ouais. Tu sens vraiment que ça se déchire de l'intérieur, en fait. Même s'il n'y a pas ce côté où il y a 200 personnages qui se foutent sur la tronche, il y a vraiment ce côté, ça se déchire de l'intérieur. Tu vois ceux qui sont proches douter l'un de l'autre, même se taper sur la tronche dans des scènes. Mais même d'autres raviser sa veste, c'est vraiment, tu sens vraiment ce côté-là, même si c'est pas aussi impressionnant que dans le comics. Après, tout le reste, voilà, t'as sur le fond, donc le thème politique, ils ont joué la carte à fond, mais après, tout le reste du comics, tu peux poser ton cerveau avant d'aller au ciné, par contre. Et de toute façon, les frères Russo l'avaient dit avant que le film sorte, c'était pas possible qu'ils l'adaptent, d'après eux. Donc,
Bah, de toute façon, il n'y a pas tous les personnages de l'univers comics dans l'univers cinématographique.
Donc,
ça ne pas grand-chose.
Vu qu'au moins, ils ont eu l'honneur, on va dire, de le dire. Donc, tu n'as pas de déception à avoir avec ça. Si tu te dis que tu ne vas pas voir le comics, déjà, tu peux passer un bon moment.
Ah bah, du coup, tu as posé exactement la question que j'allais poser, Corwin. Est-ce que ça ne fait pas cheapos une Civil War à 10, quoi ?
Non, voilà. Parce que vu la puissance de feu des personnages, pas vraiment.
Non, il y a certains personnages qui ont une prestance. Pour moi, le personnage le plus travaillé, on va dire ex aequo, c'est Black Panther. Mm. Ils ont vraiment joué sur le côté animal, tu le vois dans son regard, les déplacements. Ils ont vraiment joué la
personnage clé du film.
Ouais, vraiment. Il est vraiment impressionnant.
Contrairement à Spider-Man.
Déjà dans la balance, l'acteur ressortait quelque chose, mais dans le film, il est bestial, il est furtif, il est vraiment très 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 réussi. Du coup, ça fait pas, quand t'as des personnages comme ça, c'est pas du tout cheap. Pareil pour Scarlet Witch, quand on la voit dans Avengers 2, on lui avait un peu chié dessus, la pauvre fille, tu vois. Et là, c'est pas encore Wanda, tu vois, c'est pas la sorcière rouge, mais...
Elle a pris
une évolution vraiment flagrante, quoi. Elle est vraiment impressionnante. T'as vraiment pas envie de la faire chier, quoi. Donc, elle a pris de l'assurance. Ses pouvoirs sont décuplés. Puis elle, tu la vois évoluer dans le film aussi, quand tu compares le début et la fin.
Je sais pas s'ils sont découplés, plutôt mieux représentés, je pense.
Oui,
parce aussi. Que je crois que Joss Whedon travaillait encore sur le sujet pour que, savoir comment les représenter. Et en fait, les frères Russo ont terminé cette réflexion. Et ils y arrivent très bien, je
trouve. Oui, très très bien. C'est... Puis il y a d'autres personnages où on leur a chié littéralement sur la gueule. C'est soir, bon, je dirais pas qui, parce que voilà, ça spoil un peu, mais je pense que Sam a deviné.
Non.
En début de film. Les 5 premières minutes du film. Attends.
Non, mais...
Non, non.
Je veux pas dire, parce que c'est du spoil, en fait. Sachant qu'on voit des brides dans la bande annonce.
Ah enfin, non, non.
Ah si, ah, si le porc, on lui a chié dessus. Hein.
Non, je trouve qu'il se déforme bien.
Bon, 5 minutes. Utilité, bah, de ce personnage, zéro.
Bah, c'est quand même lui un peu l'élément déclencheur. Hein.
Oui, mais bon, quand tu vois la balance et qu'ils te le vendent... Enfin, voilà, dans la balance, ils te le vendent, quoi.
Ah, mais je n'ai... moi, personnellement, j'ai fait mon possible pour éviter toutes les bandes
annonces. Ah, mais en gros, dans la balance, on te vend le personnage, tu te dis, oh, putain, ça va être impressionnant, quoi, tu vois. Et alors qu'en fait, ben, tout ça pour ça, quoi. Et,
ayant vu de quel personnage vous parlez, puisque ça a été dit sur le petit chat privé que l'on a sur Mumble...
Nitro,
non. ça me paraît pas illogique que Sam ne pense pas qu'on lui... Alors, j'ai pas vu le film, hein, bien sûr, mais que Sam ne pense pas qu'on lui ait chié sur la gueule, tout simplement parce que, malgré tout, le thème de Civil War reste l'affrontement entre super-héros. Et toute forme de méchant n'a presque pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est de voir les héros et leurs idéaux s'affronter.
Voilà, mais... Moi, c'est pas ça qui me vient. D'ailleurs, ce que tu dis ne fait que ce jeu plus soi, parce que ça, du coup, ça confirme ce que je disais tout à l'heure à Sam. Il y a une sous-intrigue dans le film qui en a rien à foutre là, et qui en plus est bâclée, donc ça rejoint ce que je disais. Mais du coup, c'est pas ça qui me gêne, c'est plus le fait, voilà, on te le vend dans la bande-annonce, puis on te chie à la gueule comme ça, tu vois, dans le film. Et ça, en fait, ça m'a saoulé, tu vois. On en fait des pop, on en fait des produits dérivés, on le vend dans la bande-annonce, tout ça pourquoi? Pour 5 minutes.
Enfin, ça a été toujours la stratégie Marvel.
Oui, ouais. Mais tu vois, c'est le fait qu'on te le vende. Enfin, moi, j'ai vu, je suis beaucoup présente sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de choses autour de ce personnage. Et du coup, ben, même si je savais que ça allait pas tourner autour de lui et que ça allait pas être forcément le méchant du film, je m'attendais à un petit twist, tu vois. Et puis, j'ai vu ça. Et je fais « Ah ».
Mais, ouais, mais oui, ça, c'est le marketing social, ça.
Voilà.
Le marketing social et les bandes annonces. Moi, perso, c'est pareil, j'évite comme la peste tout ce qui est bandes annonces, marketing de réseaux sociaux, voilà. Etc. Parce que c'est juste de la fumisterie et de la poudre aux yeux. Donc,
Moi, je veux vraiment découvrir le film quand je vais le voir. Pas voir tout en 2 minutes et laisser
le résumé.
Mais pour
chier, coup, quoi, à force.
Pour le coup, ça, c'est un bon point fort, c'est que. Moi, de mon avis, qui ai vu les deux bandes annonces, à mon grand regret, la deuxième surtout, j'ai pas eu l'impression de voir tout le film. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup de surprises. Mais bon, malgré la deuxième bande annonce, vous nous avez spoilé la présence de Spider-Man.
Ah oui! Bon, qui n'a pas un rôle clé, autant le dire.
Enfin, en même temps,
autant,
ça avait été dit partout, quoi. Auparavant, la présence de Spider-Man. Ce qui est con, c'est nous spoiler le costume,
voilà,
et l'apparition.
C'est... Non,
mais sa
moi,
présence,
c'est... Voilà.
Elle était
moi,
cool.
Alors, la présence, je
d'ailleurs,
savais,
sur Spider-Man,
on savait.
Introduction réussie, caractérisation fidèle aux comics, mais rôle tout à fait secondaire. C'est-à-dire que c'est... Moi, ça m'a fait marrer, parce que les frères Russo, dans pas mal d'interviews, on n'a pas arrêté de dire « Oui, il a un rôle très organique dans le machin. » Non. Il pourrait ne pas être là, j'aurais pas vu la différence.
Mais là, encore une fois, ça, c'est du marketing pur. Hein, ouais. Parce qu'il faut
autant
réimposer le personnage. Il revient chez Marvel, il faut le réimposer. En plus, ils l'ont signé pour je ne sais combien de films, ce gamin. Il va grandir, c'est le Harry Potter de Marvel qui va grandir.
Tom Holland est très bon. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est vraiment le Peter Parker qu'on attendait.
Oui, mais il faut absolument l'imposer marketingment parlant, parce que c'est le Harry Potter de chez Marvel. Il va grandir avec les films, et ils ont qu'une expérience de vie pour ce personnage à l'écran de 7-8 ans max. Donc il faut l'imposer au maximum. Je pense que c'est pour ça que le marketing a été fait dans ce sens-là.
Moi, j'ai
par
pas
contre,
eu cette
attention, Black Panther,
de...
effectivement, c'est vraiment le personnage clé dans l'intrigue.
J'ai pas eu l'impression qu'on me l'imposait, ce Spider-Man. Enfin, il était vraiment très très bien, j'ai rien à redire dessus. À part peut-être le rouge du costume qui est en rouge, mais. Parce qu'un peu trop clinquant pour moi. Mais non, il n'y a rien à redire.
Bah,
c'est vraiment le.
On sait qu'il lui fait ce costume
Parker
dans le film,
fait.
Donc c'est normal.
Oui.
C'est logique.
Mais non, après...
Oh, pitié, autre, pitié, ne me dites pas, par pitié. Vous avez, spoiler, hein, tant pis si c'est ça. Hein. Mais vraiment, ne me dites pas que c'est le personnage qui va être fédérateur pour que les deux camps s'arrêtent, tout simplement parce qu'il porte du bleu et du rouge, quoi. Ne me dites pas qu'ils sont tombés aussi bas.
Non, non. Du tout. Hein.
Tant mieux, parce que là, j'ai quand même eu d'un seul coup très peur, là, quand t'as parlé de qui lui fait le costume et tout. Je me suis dit, non, pitié, pas ça,
non,
quoi.
Non, Laure a dit, le rouge est trop clinquant, mais je lui ai dit, c'est normal, étant donné le personnage qui a conçu le costume.
Oui, oui, non, mais d'un seul coup, j'ai eu cette idée, voilà. Cette idée de, oh, c'est le personnage fédérateur qui va arrêter la Civil War, parce que le mec a du bleu et du rouge, Iron Man, Captain America, quoi. Le mec, il porte les deux couleurs, oh là là, mais arrêtez de vous battre. Ah, ok, t'as raison. J'ai eu tellement peur de ça. Oh, mon Dieu. Je me suis fait un fil dans ma tête, monsieur. Ah, merci.
Et pour moi, dernier point négatif, bon, c'est pas très très grave, mais ça m'a un peu gâché le plaisir des fois. Par exemple, la scène de l'aéroport qui est connue, voilà, quand on voit les images et les bandes-annonces, surtout les images. On sait que Marvel a été acheté par Disney et que leur touche à eux, Marvel, c'est l'humour, mais alors des fois, juste non, quoi. Enfin, là, j'ai une phrase qui me revient en tête, là, qui est en pleine scène, donc quand même épique et vachement impressionnante dans l'aéroport, et il te sort ça, comme le lapin du chapeau, et ça te gâche tout. Autant des fois...
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
C'est une phrase de Wanda, franchement, non, tu vois. Autant Spider-Man, il a balancé 2-3 punchlines pendant cette bataille-là.
Non, donc, moi, j'ai rien noté qui m'ait dérangé, franchement.
Ça passe, tu vois, mais parce que c'est le personnage. Mais déjà, Wanda, ça colle pas. Et de deux, des moments où ça colle, que là, je me remets en tête, tout ça, ben voilà, c'est Marvel, on est habitué, tout ça. Mais pendant des moments aussi épiques, t'as pas envie. Ça gâche le moment, presque. Enfin, j'ai cette phrase en tête, et c'est vrai que l'humour a été un peu mal dosé, celui-là.
J'ai pas trouvé. Je trouve moi, la manière... Vu le ton plutôt dramatique de la scène, non du coup.
Ben ouais, moi il y a une phrase que j'ai dit, putain les gars, vous avez pas fait ça quoi. Après je sais pas, tu l'as vu en VO ou en VF?
VF.
Bon ben du coup. Enfin, moi je l'ai vu en VF aussi et c'est vrai que cette phrase, je sais pas, je trouve qu'elle avait rien à faire là en fait. Mais autant Spider-Man il a lâché des vannes, voilà, c'est le personnage et c'était un peu lourd mais ça passait. Mais ouais, il y a deux trois moments comme ça où ils auraient peut-être pas dû forcer sur l'humour et que du coup ils veulent se la jouer voilà, on a pour une fois Marvel a un vrai thème adulte et sombre vraiment, c'est hyper travaillé dans le film, je trouve. Ils ont joué cette carte là à fond et ils font des moments comme ça, c'est-à-dire, non, soit vous décidez, vous jouez cette carte à fond de ton sombre et dramatique. Mais vous baissez la dose d'humour, quoi, parce que ça, les deux vont pas dans l'autre. Donc, moi, ça m'a. Des fois, ça m'a gonflé, quoi.
Non, moi, je trouve que tout était bien dosé durant tout le film. J'ai pas été dérangé par les quelques bribes d'humour qu'il y avait, ça ou là. C'était généralement bien géré.
Non, mais voilà, il y a des moments où c'était bien géré, en effet. Mais je pense notamment à une scène où Bucky et Sam sont dans une voiture. Mais voilà, où ça m'a fait énormément rire. Mais voilà, sur des moments comme ça, où c'est quand même le calme plat, ça va. Mais sur des moments aussi épiques, je trouve ça dommage. Ça peut, sur des gens comme moi, ça peut gâcher le moment. Pas entièrement, mais sur le coup, ça te refroidit, quoi.
Du coup, on va mettre des notes comme si c'était un comics, hein, tout simplement. Au lieu de à posséder, à lire ou à éviter, on va aller... on va plutôt utiliser le avoir absolument, limite avoir et revoir, avoir une fois en se faisant payer la place et puis à éviter quoi.
Avoir absolument et à revoir pour moi.
D'accord.
Je serais partagée, j'ai envie de dire avoir absolument parce que c'est quand même Marvel, c'est quand même un événement. Et puis c'est quand même relativement un bon film, mais pas à revoir. Au cinéma du moins. Moi je ne repayerais pas plein pot pour le revoir.
Bien. Donc, on a compris hein, que Sam était pro-Marvel et que Laure était pro-DC. Voilà. Voilà, c'est bon. On a compris, on a vu clair dans votre jeu. Hein, c'est tout.
Bon, en tout cas, j'ai été. Autre bonne nouvelle, j'étais plutôt rassuré pour Suicide Squad. C'était parce qu'on a vu la bande-annonce au ciné. Et...
Ça,
c'est... Excellent.
Tu t'es pas caché les yeux, toi, qui veux pas voir de bande-annonce et te faire conduire.
Non, ben là, j'étais un peu imposé. Hein. J'étais dans la salle. moins de me crever les yeux et crever les oreilles.
Et du coup, la sans spoiler, au fait, t'as pensé quoi des deux scènes post-générique? Sans spoiler.
Logique.
Ça t'annonce du bon ou du pas bon?
La première, ça résout quelques questions que je me posais sur certains personnages, parce que on a le sort de, bah, notamment de Black Panther, où je me demandais un peu ce qu'il devenait, donc on a un peu la réponse. Et la seconde, qui annonce le futur, voilà. Qui me pose quelques questions.
Moi, la seconde, je ne m'attendais pas à celle-là, franchement. Je
m'attendais à autre chose, en fait.
Moi, je m'attendais à autre chose qui arrive plus tôt.
Oui, qui soit en lien avec Infinity War, ouais.
Non, que d'un film plus proche que celui-là, d'annoncer.
Ah, Strange.
Ouais, je m'attendais à ça. Mais...
Du coup, bah, voilà. On a déjà eu le trailer de Strange, donc il n'y a plus grand-chose à montrer, maintenant. Il n'y a plus que le
film. Mais justement, je trouve que les studios Marvel ont perdu ce truc où chaque film annonçait le suivant. Maintenant, c'est un peu... Voilà, on fait ce qui nous inspire.
Ah non, mais c'est pas plus mal, ça. Honnêtement, c'est même mieux, je trouve, parce que le gimmick du « on vous montre 3 secondes de ce qui va se passer en prochain film », quand on est rendu à 12 films, voilà, c'est plus novateur et c'est plus fun, quoi. Montre-nous quelque chose d'autre plutôt que ça, puisque de toute façon, comme Sam l'a dit, le trailer est déjà sorti, on a déjà vu le mec en costume. Il y aurait eu beaucoup moins d'intérêt, du coup.
Ouais, je sais pas, moi, j'aurais bien aimé un petit...
À la limite, ça aurait mieux marché, je pense, que si, ça, par exemple, un personnage comme Captain Marvel avait été introduit dans
Captain Marvel 2019, en même temps.
Voilà, à la limite, tu commences pas par Captain, tu commences par Carol Danvers.
Mais
pour un peu teaser, pour un peu annoncer.
Du coup, l'annonce de
pour montrer l'actrice aussi, puisqu'on la connaît pas encore. Donc ça...
Le teasing de ces deux scènes post-génériques, donc pour le futur des studios Marvel, je comprends toujours pas quand on voit la chute du film, parce qu'il y a une phrase qui m'a fait tilter d'un des personnages, donc qu'on voit tout à la fin, de comment, enfin d'où ils vont le foutre en fait, parce que enfin, ça va revenir. Enfin, tu sens que il va y avoir une suite quoi à ça. Vu l'intonation de la phrase, enfin moi ça m'a marqué. Il va y avoir une suite et quand je vois le planning du MCU, je sais pas où c'est qu'ils vont le foutre.
Bah là, moi j'ai pas de réponse, hein, perso. Et Sam?
Bah j'ai pas de réponse non plus.
Je pense que personne n'a la réponse, tout simplement.
Bah à part Infinity War, je sais pas trop comment ils vont le caser, d'ailleurs. De toute façon, c'est peut-être pour ça aussi que c'est en deux parties.
Et qui, ouais, selon les dires des frères Russo, seront deux parties bien distinctes.
Oui, bah ça explique tout.
Et
alors.
Non pas un 1 et Cliffhanger, puis le 2, ce sera vraiment deux films. Certes, ils auront le même titre, part 1, part 2, mais ce sera deux choses bien différentes. Selon eux, attention, le marketing.
Quand vous Steve, si vous n'avez pas vu le film, regardez pas le commentaire que je viens d'envoyer, c'est pour Sam, qu'il comprenne ce que je dis.
Non, ça n'a rien à voir.
Ça laisse présager une... Tu vois, genre...
C'est absolument
pas radio pour vu, quoi.
Non, mais on en parlera hors antenne pour...
Mais voilà.
Passons donc à la partie bibliothèque, justement, ce qui est le matériel source Civil War, et donc par extension les affrontements entre les super-héros eux-mêmes, qui ont décidé que taper sur les vilains c'était trop facile, autant se taper entre eux, parce qu'eux ils gagnent toujours. Donc, lequel est le plus fort? C'est la question qu'on s'est toujours posée, hein, de toute
qui
façon.
Qui est la plus grosse, surtout?
Qui est la plus grosse?
C'est vraiment quelque chose d'ancré purement dans les comics en général, et notamment les comics de super-héros.
Mais c'est devenu limite un indémodable, quoi. C'est ça, quoi.
Oui, c'est devenu un gimmick à travers l'histoire.
Un gimmick. Oui.
Mais je vous
et
laisse lancer.
Une source d'event inépuisable pour Marvel, maintenant.
Ah, un event où les super-héros s'affrontent pas? Non, ça marchera jamais.
Aucun intérêt.
Ça marchera jamais. On fait un petit crossover entre deux séries, c'est tout. Hein, pour un event, il faut qu'ils se fightent.
Mieux, des super-héros qui se fightent et qui après s'inversent de personnalité. Attends, on tient un truc, les gars. Ah, mais non, t'as déjà fait ça, Axie.
Bah oui, parce que on avait eu les super-héros qui se fightent parce que certains avaient changé de camp, c'était dans Fear Itself. Après, ils se sont dit, tiens, si on les faisait changer quasiment tous de camp, c'était Axis. Ah, Marvel, recycleur d'idées depuis.
Non, mais d'un côté, Ils sont pas cons. Ils savent que ça marche. Sachant qu'en plus, là, je pense que ça va pas être... Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin, étant donné que, vu la thématique des films actuellement, comme je dis, BVS, Civil War, Apocalypse, sûrement, bon, pas aussi marqué, mais bon, avec les quatre cavaliers d'Apocalypse, on se doute que... Je pense que les prochains events, ça tournera autour de cette thématique-là. Déjà que dans
le prochain, c'est Civil War 2. Hein.
Oui, ben voilà.
Que d'imagination, le titre.
Écrit par Bendis, d'autant plus, quoi.
Ah, ouais, mais c'est bizarre.
Ça donne envie. Hein.
Ça sort le mois suivant la sortie du film, dis donc.
Ah, mais selon les hautes autorités de Marvel, c'est purement un hasard.
Oui, mais
c'est
complètement
hasard. C'est totalement hasard, c'était pas prévu pour. Chose. C'était
bon,
vraiment.
Comme c'est bien fait, le hasard.
Mais oui, mais tellement. Putain, Marvel, quoi. C'est des ouf.
Il y a encore des gens qui croient à ça. Parce que là, franchement, je veux dire, la crédulité, ça va un moment, quoi.
Ou alors, ils sont allés au talent, ils se sont dit, bon, on va mettre ça dans une conférence de presse, on va voir, ça va passer crème, les gars.
Bah, ça dépend, tu crois au Père Noël?
Oui.
Ah, voilà.
Ah, bah, c'est bon.
Justement, parlons un petit peu des affrontements de super-héros. Marvel, donc, en a fait sa spécialité. Utilisant
à travers l'histoire,
pleinement.
Depuis les origines.
Ils ont utilisé pleinement l'univers partagé. DC le faisait moins. En général, les héros étaient gentils et ils étaient potes.
C'est civil, les uns avec les autres.
C'est-à-dire que eux, leur affrontement, c'était genre, ils faisaient une partie de dés, quoi. Ah, t'as gagné, ok, c'est bon.
Ou se réconcilier très vite, du moins. S'il y avait affrontement.
Jusqu'à un certain Frank Miller.
Ma maman, elle a le même nom que la tienne.
Ah, déjà, de toute façon, il suffit de regarder certains des premiers numéros classiques de Marvel. Le premier numéro d'Avengers, c'est le parfait exemple des héros qui s'affrontent. Manipulés, certes, mais des héros qui s'affrontent.
Et d'ailleurs, ils l'avaient très bien repris dans le film Avengers.
Oui.
La première scène d'introduction, il y a Cap, Iron Man et Thor qui se foutent sur la gueule.
C'est vrai. C'est vrai. Avec peu, Loki qui se délecte.
C'est un peu ce qui a plus ou moins à l'origine des Avengers, hein. Comme tu le dis, au départ ils sont fondés là-dessus.
Tu nous parlais de l'apport de Frank Miller, Sam.
Oui, pour une certaine scène de baston dans Dark Knight Returns, qui a quand même marqué des générations et des générations, qui marquent encore, et qui a en quelque sorte produit un certain film cette année.
Suicide Squad.
Oui, entre autres.
Moi, je retourne à ce que Corwin disait. Ça, bien sûr que, enfin, c'est un peu comme dans la mythologie gréco-romaine, les combats dans les arènes. Tu peux pas avoir des. Enfin, pour moi, ça coule de source ces events où ils se foutent tous sur la gueule. C'est comme à l'époque, voilà, dans la mythologie gréco-romaine, tu peux pas avoir des êtres aussi surpuissants dans une même arène ou une même équipe, là, dans le cas des comics. Tant qu'au bout d'un moment, ça se fout sur la gueule pour soit faire parce qu'ils sont pas d'accord, soit pour faire le concours de la plus grosse quéquette, tu vois. C'est inévitable et ça marche toujours. Donc voilà. Moi, ça.
Pour moi, Laure, tu es responsable du sexisme dans les comics puisque tu dis concours de la grosse quéquette, tu oublies qu'il y a des personnages femmes.
Ouais. Ben, ils ont peut-être des quéquettes, c'est peut-être des chimelles.
Non, c'est le concours du plus gros clito.
Vous ne verrez plus Vanda Maximoff de la même façon, je vous assure.
Oui. Là, le rouge qu'elle porte, bizarrement, ça évoque autre chose.
Une fois par mois seulement.
Oh mon Dieu, j'ai des images sales. Sortez-moi ça de la tête. Non, mais on... Je pense sincèrement que tout surpuissant qu'ils sont, ils sont pas obligés de se foutre sur la gueule. Je veux dire, déjà, à la base, ce sont censés être des héros. Alors certes, on est dans un monde un peu plus réaliste
truc,
aujourd'hui.
On est dans une forme d'histoire qui est portée sur la dramaturgie. Donc à un moment, il faut que ça se combatte. Sinon, s'il n'y a que de la tension mais pas de résolution, ça n'a aucun intérêt.
Tu peux, ouais, tu peux avoir des différends sans forcément taper sur la gueule de ton voisin dans la vraie vie.
Si.
Je veux dire, tu peux simplement t'engueuler, mais aller vers le même but. Voilà. Et surtout quand tu as en face une menace qui s'appelle des super fucking vilains, quoi.
Oui, mais Steve, comme tu as dit, dans la vraie vie, dans un contexte comme celui-là, donc dans les comics, comme je t'ai dit, c'est quand tu as des êtres aussi surpuissants. C'est inévitable qu'ils se foutent sur la gueule à un moment donné, c'est inévitable.
T'as plus les mêmes repères non plus.
Oui, mais même pour faire plaisir aux fans qui se demandent toujours qui est le plus fort entre eux, un tel ou un tel. DC, en contre, par rapport à Marvel, avait réussi à faire des choses intéressantes entre eux. Bah, pour faire le concours du plus fort, les fameuses courses Superman Flash. Les mecs se mettaient pas sur la gueule et pourtant on avait une réponse de qui est le plus fort. Enfin, en tout cas sur un des domaines. Ils n'étaient pas obligés d'en arriver au point.
Ah oui, non, mais je dis pas que je suis en accord avec ça, mais pour moi ça me paraît inévitable.
En même temps, quand tu as un Daredevil Punisher, c'est difficile d'aller raisonner le Punisher.
Là, non, mais je dis pas qu'ils sont tous évitables, ces affrontements. Là, ce sont deux idéologies différentes. D'ailleurs, le Punisher est-il vraiment un super-héros?
Pas vraiment.
Voilà,
disons qu'il a été longtemps traité comme tel.
Voilà, peut-on vraiment le mettre dans la catégorie des héros?
Mais ça, c'est un autre débat, parce que, bon, on peut. Enfin, déjà, c'est un autre débat, oui. Mais ça peut être un héros, parce qu'au final, il tue que des connards. Mais d'un autre côté, il tue quand même, et par masse. Donc,
voilà. Bah, la question, c'est voilà, le Punisher n'est-il pas le mal lui-même qu'il cherche de combattre? Mais c'est la traditionnelle question du Punisher, de toute façon. C'est ce qui fait l'intérêt du Punisher.
C'est comme la thématique de la saison 1 de Daredevil, où au final, tu t'en rends bien compte que Wilson Fisk veut lui aussi préserver Hell's Kitchen et... comment dire? Enfin, ils veulent tous les deux... protéger Hell's Kitchen, mais de façon différente. Donc au final, c'est un super vilain et lui un super héros, mais c'est juste question de point de vue.
Tu vois, bah,
c'est comme
Xavier,
avec Punisher.
Xavier et Magneto. Hein.
Voilà, c'est au final.
Fondamentalement, ils ont le même but.
Voilà. Donc surtout dans des cas comme ça, c'est obligé que ça finisse. Inévitable que ça se finisse en baston, que ce soit super vilain, héros ou.
Mais
héros,
voilà, mais la différence,
c'est
elle est là.
Comme Civil War.
Je pense que ce que tu veux dire, Steve, c'est que ça pourrait être mieux amené que ce que ça a été fait ces dernières années.
Exactement. Est-ce que ce n'est pas un refuge
été très souvent superficiel.
N'est-ce pas un refuge très facile
Tout à fait.
Le côté Avengers contre X-Men, c'est nous faire une Civil War entre les Avengers et les X-Men, mais de façon hyper facile. Sans déconner. Malgré le fait que je ne suis pas un des plus ardents fans de Mark Millar, loin de là, je dois bien avouer que sa Civil War est peut-être l'aboutissement de l'affrontement entre héros.
Mais, oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
C'est la fin de la soirée, c'est pour ça. On a commencé
c'est juste que mon argument était imparable, voilà, c'est tout.
Oui, ah merci. Alors, en fait, parce que du coup, j'étais vachement contente de ce que tu disais. Et oui, non, mais voilà, je suis d'accord avec toi où, comme l'exemple de Flash que tu as cité, ça pourrait, enfin, on pourrait s'en passer, voilà, qu'ils se foutent allègrement sur la tronche. Mais d'un autre côté, je le reconnais moi-même, si c'est comme Secret Wars où pendant les 4 ou 5 premiers numéros, ça fait que blablater alors que t'attends que ça qu'ils se foutent sur la gueule, bon, là, c'est pas héros contre héros, ben, les gens gueuleraient. Moi, la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a gonflé de lire 4 épisodes où c'est que de la parole.
Non, mais
alors que c'est vendu comme un event.
Le principe pour moi, c'est qu'intrinsèquement, le héros a des valeurs morales. Peut-être Boy Scout, alors il ne faut peut-être pas trop pousser, mais à la base, le héros est quand même censé être quelqu'un d'un minimum réfléchi, qui veut le bien. Et aller mettre sur la gueule à celui qui fait partie de la même équipe que lui, juste pour une raison totalement fallacieuse d'un scénariste en manque d'inspiration... Ça me dérange au bout d'un moment de lire. Je dis pas qu'en lire un de temps en temps, c'est pas cool. C'est cool aussi de voir des super-héros se mettre sur la gueule entre eux.
Mais pour une raison valable.
Mais pour une raison valable. L'exemple de Civil War Comics est peut-être un des exemples les plus aboutis de mémoire récente. Mais voilà, je veux dire, là, c'est la valeur refuge, quoi.
Mais disons que ça demande une réflexion de base sur les différences idéologiques et donc de savoir, de connaître ces personnages.
Je vais reprendre un des arguments dont on parle souvent avec Benny quand on discute après les émissions, ou même je crois qu'il l'avait déjà cité en émission, mais clairement, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu les super-héros en équipe affronter des super-vilains, vraiment, dans un event? Je veux dire, depuis ces dernières années, les super-héros n'affrontent que les super-héros. Et le pire ennemi des super-héros, c'est justement le super-héros qui est avec lui dans son équipe. Et ça devient d'une, prévisible, deux, rébarbatif, et trois, absolument ininspiré. On nous laisserait passer 10 ans entre deux affrontements de super-héros massifs, et je dis bien massifs, typique l'event, on se dirait « Ah putain, c'est cool, quoi !» Parce qu'en 10 ans, les codes ont changé, la narration a changé, etc. Mais honnêtement, qu'est-ce qui a vraiment changé entre Axis et Avengers vs X-Men. Même si Axis est légèrement différent, mais ça reste un peu la même chose quand même.
Ah, c'était oui, la même, c'était la même.
Les personnalités
même
sont
base.
Inversées, donc ils se tapent dessus. Donc, mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un méchant emblématique, à part là actuellement Doom, mais ça, pour moi je le considère pas comme un super vilain là actuellement. Mais,
non,
mais
moi j'ai simplement envie de dire Secret War, ça compte même pas, c'est une réalité alternative. J'appelle pas ça de la continuité, moi. Pour moi, ça ne compte pas.
Si, c'est de la continuité.
Ah, pour moi, non.
Ah bah non, c'est, bah si, c'est le truc qui te permet d'effacer les 40 ans qui oui, sont ça... faits précédemment pour remettre des bases et avoir de la facilité scénaristique.
C'est comme Age of Apocalypse,
moi,
si tu veux.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas non plus un Elseworld pour moi.
Age of Apocalypse est peut-être une très bonne histoire. Alors, on sort de l'affrontement super-héroïque, là, mais Age of Apocalypse, en termes de continuité, ce qui s'y passe n'a quasiment aucune conséquence sur le reste. Pour nous, lecteurs, c'est un super moment, mais en termes de continuité comics pure, ça n'apporte pas grand-chose. Il y a eu 4 personnages évadés. Waouh, putain, ça a changé la face du monde Marvel, c'est sûr.
Oh, il y a une série pourrie aussi.
Oui, mais du coup, oui, c'est paradoxal ce que tu dis, parce que Secret War, ça va avoir de lourdes conséquences. Enfin, moi, je n'ai pas lu en VO, ça sort en VO.
Ah bah moi, je les cherche encore. Hein.
Mais de ce que j'ai compris, voilà, ça va avoir de grosses conséquences.
Sincèrement, je les cherche encore, moi, les conséquences de Secret Wars. On aurait pu zapper la parenthèse Secret Wars. Je vois pas la différence. On a un gap de 8 mois.
Il y en a quelques-unes, mais elles sont minimes, en fait. Hein.
Oui, moi, je pense qu'il faut, arrêter de croire Marvel quand ils disent que c'est le crossover qui va tout changer l'univers de la mort à jamais. C'est un argument marketing qui a fait long feu. Et moi, j'arrête de croire à ce genre d'argument parce que sinon, je suis déçu.
Moi, c'est pas que je suis une vendue du marketing, mais étant donné que je suis une lectrice purement VF, c'est pour ça que je suis là. Mais du coup, j'ai pas lu, comme les séries, Scarlet Witch, Invisible Iron Man, tout ça. J'ai pas lu le post-Secret Wars, donc je sais pas. Moi, je lis ce qu'on me dit dans les éditos. Donc, Secret Wars va avoir de lourdes conséquences sur les nouvelles séries, vu que ça repart au numéro 1. Moi, on me dit ça, pour moi, c'est que c'est vrai, quoi.
Moi non plus.
J'en sais rien, tu vois, j'ai pas lu, donc je peux pas dire.
Moi non plus, je suis pas à jour sur la VO, parce que maintenant je suis au rythme VF, mais j'ai arrêté d'y croire il y a un petit moment, parce que cet argument-là, on l'a sorti je sais pas combien de fois au fil de ces 10 dernières années, aller à la louche. Voilà quoi.
Bah, l'une des raisons, c'est que pour moi, c'est que les vrais changements sont le fruit d'évolutions qui sont le résultat d'un travail dans le temps, et que le temps, c'est très exactement ce qu'on a plus dans les comics. Comme on en a parlé, maintenant on a un relaunch Marvel, puisqu'on parle de Marvel à peu près tous les 3 ans. Quand tous les 3 ans on te dit on nettoie la table et on fait plus référence au passé, qu'est-ce que tu veux construire sur la durée?
C'est quelque chose qu'on a pu depuis Civil War et House of M, où là, ces deux events-là avaient eu de réelles conséquences sur l'univers après. Quoi.
Voilà un univers alternatif, House of M, qui a des conséquences, et encore, qui a des conséquences, oui et non, ça n'a des conséquences que la totale conclusion d'House of M. Parce que House of M en lui-même n'a eu de conséquences que pour Wolverine, qui a retrouvé sa mémoire.
Pour les X-Men pendant quelques temps.
Je parle de House of M pur, parce que finalement c'est le retour à la réalité, et Wanda qui pète les plombs à nouveau. On aurait presque pu zapper la parenthèse House of M et ne garder que la conclusion. Tu lis ces 4 dernières pages de conclusion et t'as le setup pour les années à venir pour les mutants. House of M en lui-même est une fois de plus un event what if qui, il s'est passé des choses, ouais, il y a eu quoi? La mémoire de Wolverine et Layla Miller qui en sont sortis. Je parle vraiment de cette dimension alternative. C'est tout. C'est comme Age of Apocalypse, on a 4 personnages de Secret Wars actuellement, sans spoiler trop les lecteurs VF, je vous assure, vous avez un gap de 8 mois quand les séries vont commencer, et la majorité des séries n'a pas répondu encore à ce qui s'est passé pendant ces 8 mois. Et on joue le mystère là-dessus. Et on a 3-4 personnages qui sont échappés de cet univers. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on reprend la formule Age of Apocalypse. Point.
Ouais.
En termes d'intérêt...
Là, c'est une date plus.
Non, mais en termes d'intérêt, il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y en a pas. Ça n'a pas de, de conséquences réelles et notables. Ce n'est pas parce qu'un personnage... Je veux dire, ça a autant de conséquences que le run de X-Men, de Bendis sur les X-Men, qui nous a ramené les 5 X-Men du passé. Et il nous a laissé dans le présent. Voilà, voilà les conséquences. C'est juste qu'on a déplacé des personnages. Ouais, mais est-ce que ça a changé la face du monde Marvel? Non. Non.
Ça n'a même pas changé la face des X-Men. Donc
Ça change... Sans déconner, je vais faire une blague de mauvais goût, mais ma fesse en est plus changée quand je me torche le cul. Sincèrement, je passe d'un état de cul plein de merde à cul propre. Marvel n'a même pas eu cette audace, quoi. On se retrouve avec la même merde et avec encore plus de problèmes pour les lecteurs suivants qui ne sauront même pas si ça a eu lieu ou pas, parce que Marvel se réserve le droit de modifier la réalité à sa guise.
Moi, ça m'a fait cet effet-là pour Original Sin. Où je me rappelle, il t'avait vendu le truc, le gardien est mort, tous les secrets vont être révélés, ça va avoir de lourdes conséquences, les pires secrets des héros vont exploser au grand jour.
À part que. On a poussé la poussière sous le tapis et ça n'a jamais eu lieu.
Ah ouais, non, mais franchement, puis alors c'était des secrets qu'on n'avait rien à taper, tu vois, l'autre qui a une sœur, merci, on s'en fout, tu vois. J'aime bien le personnage d'Angela, tu vois, mais. Ça n'a rien changé, quoi. Enfin, on l'aurait introduit plus tard sans cet event, ça aurait fait pareil, quoi.
Mais la seule justification notable, c'est de faire disparaître l'ancien Nick Fury blanc pour que le Nick Fury black que l'on voit dans les films soit le seul Nick Fury à tout jamais dans l'histoire de Marvel.
C'est ça.
Sachant que Samuel L. Jackson n'apparaît pas dans Civil War, par exemple. N'est pas dans Doctor Strange également, donc en fait, il est dans aucun film de cette.
Est-ce que d'ailleurs Nick Fury est quelque part en ce moment dans l'univers Marvel?
Non, je crois pas.
Voilà. Je parle comics, je le cherche, je le vois pas vraiment.
Si, dans Untamed Secret Wars ou.
Non, je parle pas Secret Wars.
Ah, moi je parle Secret Wars en VF.
Je crois pas l'avoir revu depuis. Après, je lis pas tout, hein, parce que Marvel, il y a longtemps que j'ai réduit la dose. Ça me donnait des boutons.
Ah, je sais plus dans lequel c'est, je sais plus le titre, Corwin, où il y a les Avengers de deux réalités où ils veulent rentrer chez eux.
C'est un titre que je lis pas.
D'accord, bon, comme ça, je sais plus. En gros, voilà, il y a Nick Fury Ultimate. Quoi.
On tape beaucoup sur Marvel depuis le départ.
C'est pas Ultimate Power?
Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus.
On tape beaucoup sur Marvel. Ça s'est produit chez DC aussi, des affrontements de super-héros comme ça. L'exemple que tu nous avais mis sur le conducteur quand tu avais fait le petit plan de la bibliothèque, Sam, est un exemple très intéressant parce que je trouve sincèrement que oui, les héros sont en froid, oui, il y a eu des conséquences, mais je ne me rappelle pas les avoir vus beaucoup s'affronter directement.
Bah c'est surtout des divisions idéologiques. Mm-hmm. Alors, tu parles de Infinite Crisis.
Exactement, oui, je voulais te laisser, c'était ton idée, je te laisse la paternité. J'amène le truc, mais c'est à toi d'en parler, c'est logique.
Ouais, on a effectivement eu cette espèce de montée en puissance qui était une autre intrigue de Infinite Crisis, qui était la division de la Trinité. Il n'y a pas d'affrontement entre eux, puisque l'objectif des trois héros reste le même, mais il y a une séparation claire entre un Batman qui est de plus en plus paranoïaque, Wonder Woman qui est prête à franchir la ligne quand elle est face à des criminels qu'elle juge sans espoir, et un Superman qui essaye encore de faire le lien entre les trois, en fait, et qui est renvoyé dans ses cordes de par, son impuissance à utiliser sa grande puissance.
En plus, je veux dire, c'est totalement justifié. Batman a toute raison d'être paranoïaque quand on voit quand il comprend qu'on lui a modifié sa mémoire. Certes, il y a des raisons des deux côtés, mais voilà, on comprend le côté paranoïaque de Batman qui veut se défendre avec Omak.
Ouais.
Wonder Woman a clairement sauté le pas avec Maxwell Lord.
Oui, et là aussi, parce qu'elle n'avait pas le choix, tout simplement.
Mais bien sûr, aux yeux du grand public, on ne montre pas qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Et donc ce pauvre Superman qui peut faire beaucoup, mais pas grand-chose face à ses deux meilleurs amis.
Et personnellement, alors autant ça fonctionne sur Wonder Woman et Batman, autant sur Superman, je trouvais que c'était plutôt une espèce de critique de l'état des titres Superman. Et des problèmes qui déjà existaient à ce moment-là dans le traitement du personnage.
Et c'est vrai que DC a beaucoup moins joué sur cette corde. On a des affrontements de super-héros, on a des affrontements des personnages qui se sont foutus sur la gueule, mais généralement, c'est quand on est soit un petit arc, soit à un numéro dans une des deux séries des personnages respectifs.
C'est pas transformé en event gigantesque.
C'est rarement des events. D'ailleurs, je suis en train de regarder un petit peu les events et il y a eu des dissensions, effectivement, notamment pour Zero Hour, où les vues n'étaient pas les mêmes, pour Infinite, pour Crisis on Infinite Earth, évidemment. Mais jamais au point que ce soit l'affrontement entre deux camps bien rangés. Je reprends l'exemple qu'on cite depuis tout à l'heure, Avengers contre X-Men, ou même Civil War, même si dans Civil War, c'est totalement justifié.
Et puis chez les X-Men, ils sont aussi coutumiers de se foutre sur la gueule. Entre deux équipes de mutants.
Chez Claremont, ils étaient en général posés tous les trois épisodes, donc ils avaient une bonne raison en général.
Non, mais voilà. Mais c'était un peu la limite une blague récurrente à une certaine époque. C'est, on se fout dessus, et puis après, on se rend compte qu'on est mutant et qu'on a le même but et qu'on est manipulé le roi d'ombre ou les broods ou je ne sais quoi d'autre.
Moi, c'est chez les X-Men, ce qui me fatigue depuis quelques années. C'est tirer toujours sur le même personnage de Scott Summer, toujours lui. Je ne suis pas forcément une fanat du personnage, mais bon, au bout d'un moment, changer de perso, les gars.
Ça me dérange beaucoup.
Mais voilà,
j'aimais bien le personnage avant, mais ça, c'était avant qu'ils en fassent un gros connard, parce que il était intéressant, mais faut dire que depuis un petit peu avant Schisme, c'est devenu vraiment n'importe quoi.
Pour revenir chez DC, les affrontements récents dans les events, on a Final Crisis, mais une fois encore, parce que certains sont contrôlés par Darkseid, donc ce n'est pas vraiment de leur propre fait. On a Blackest Night, mais parce qu'on a fait revenir des héros morts. Donc oui,
qui sont manipulés par Nécro.
Voilà, donc oui, on a des affrontements de super-héros, mais de toute façon, c'était des morts. Donc voilà, une fois encore, il y a une espèce de justification qui fait qu'ils ne sont pas réellement eux-mêmes. Et puis dans Flashpoint, mais là aussi, ce sont des versions alternatives. Et donc des enjeux qui sont complètement différents. On repense à cette fameuse opposition entre Aquaman et Wonder Woman dans Flashpoint. Mais voilà, une fois encore, ce sont des versions alternatives. Donc comme à l'image d'un House of M ou l'image d'un Secret Wars, où on peut avoir des affrontements de super-héros, finalement ça n'a absolument aucune conséquence sur la suite, comme dans Flashpoint, mais c'est justifiable, parce qu'on est dans une autre réalité. Quand on est dans la réalité principale, Avengers vs. X-Men, Axis, etc., c'est toujours tiré sur la même ficelle. Et chez DC, j'ai beau chercher, j'en vois pas d'autres, quoi. Alors aidez-moi si j'en ai raté un, hein, par pitié, mais...
Non, je pense pas. Mais je pense qu'on a vraiment là deux schémas différents, c'est-à-dire que chez DC, soit ils sont possédés et ça mène à une combat, mais en général, ça ne dure pas longtemps, soit il y a de vraies dissensions, mais à ce moment-là, il n'y a pas de combat. En général, ils essayent de discuter, mais ils ne vont pas former des clans et partir en guerre. Alors que chez Marvel, ils sont plus sanguins, on va dire.
Ils sont plus sanguins, chez Marvel.
À part chez Injustice, où t'as vraiment deux camps distincts, du coup.
C'est vrai.
Ouais, mais là, c'est là aussi réalité alternative.
C'est une réalité alternative, c'est le pitch de base de la série. C'est vrai, j'avais pas pensé à cette série-là. Cependant, une fois encore, oui, c'est un univers alternatif. Mais alors là, c'est carrément le principe de base de la série, les héros qui sont... qui se fightent, quoi.
Pour moi, c'est l'exemple parfait, Injustice, parce que t'as une vraie raison qui est vraiment, vraiment valable... T'as deux camps bien distincts qui se foutent souvent sur la gueule. Et en plus, ça marche. Et apparemment, moi, j'en suis pas aussi loin que certains en VO. C'est toujours aussi bon. Et c'est sur la durée. Donc, c'est sur plusieurs années. Donc, pour le coup, pour moi, Injustice, c'est l'exemple parfait. Avec Civil War chez Marvel.
Je vais schématiser un peu. Peut-être même être hyper, hyper simpliste. Mais... Et je sais qu'au niveau de la qualité, c'est pourtant pas toujours évident. Mais est-ce qu'on n'aurait pas deux faces de la même pièce? C'est-à-dire que Marvel serait un peu la partie ado, avec des gens hyper sanguins, absolument pas réfléchis, qui, pour le moindre truc, vont se mettre leur poing sur la gueule, parce que voilà. Et puis DC, qui est, en apparence en tout cas, plus adulte, avec des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes opinions, ont des grosses différences profondes même de point de vue, mais qui décident d'en parler, plutôt que se latter la gueule, quoi.
Je pense que ça a aussi à voir avec l'âge des personnages de manière générale, c'est-à-dire que les, les séries qu'on a nommées en général, les héros et DC avaient passé la trentaine, voire approché pour certains plus la quarantaine, alors que chez les héros Marvel, on est éternellement coincé entre la vingtaine et la trentaine. Donc on a ce décalage d'âge qui peut influer.
Moi, c'est pas question côté adulte, côté ado.
Je parle de
C'est plus.
représentation, hein, voilà, simplement.
Oui, non, c'est. Je vois ce que tu veux dire, mais je ressens pas ce côté ado comme tu le ressens chez Marvel, mais plus on s'excuse vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que chez DC, ça. Pas comment l'exprimer, c'est pas de la rancœur, mais.
Ah, si, ils ont la rancune tenace, hein.
Ouais, mais c'est. Ah, je sais pas vraiment comment le dire. C'est plus travaillé, c'est plus sombre. Alors que chez Marvel, on va se foutre un bon coup sur la tronche, puis après on va aller boire un milkshake ensemble, quoi, tu vois.
Ouais, moi, je le ressens plus comme le côté chez Marvel, c'est plus sanguin, alors que chez DC, ça peut être plus une
Plus
colère
réfléchi,
froide.
ouais. Mais c'est-à-dire que comme dans toujours l'exemple
C'est
d'une
pas forcément
justice.
réfléchi parce que des fois ils sont pas d'accord pour des conneries,
Ben si,
mais
parce
c'est plus
que
froid, tu vois.
oui, c'est plus froid, mais c'est réfléchi dans le sens où, par exemple, dans Injustice, du moins dans le jeu, parce que j'ai pas tout lu en comics, par exemple, ils vont se foutre sur la gueule les deux clans, puis ils vont essayer d'entamer des négociations, chose que dans l'univers Marvel, je n'ai quasiment jamais vue. Il n'y a pas eu de négociation, genre on se tape sur la tronche et puis on voit ce que ça donne, quoi. On verra si un des deux côtés va céder. C'est un peu ce côté-là chez Marvel. Ben comme dans Civil War, où au final, la chute, c'est Captain America qui cède.
C'est pas Captain America qui cède réellement, c'est plutôt il se fait flinguer, donc bah ça met un petit coup d'arrêt à tout le monde, quoi.
Oui, non, mais pas dans.
Non, là il parle du 7e épisode
Voilà,
quand il
c'est
baisse
ça.
les armes.
Ah oui.
Je parle
Oui, d'accord.
de principal, quoi.
Oui, il cède parce qu'il réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez aussi.
Donc
Il trouve des
Voilà. Mais
conséquences.
voilà, c'est pour ça que chez Marvel, c'est sauf exception. Alors que d'habitude, c'est genre on se tape sur la tronche, puis on va voir ce que ça donne, quoi. On va pas essayer de négocier, on va pas essayer de se poser 5 minutes, c'est on bombarde, on bombarde, et puis advienne que pourra, quoi.
Avant de citer Lex Ayron qui nous fait un très bon petit post sur le chat, j'ai envie de dire quand même que finalement, Captain America, c'est le super-héros Marvel le plus DC, le plus réfléchi. Change de maison, mec, tu seras mieux traité. T'auras droit à ton New 52 aussi. Ah non, pardon, pardon.
En même temps, on n'arrête pas de dire que Batman c'est le héros le plus marvelien de DC.
Bah voilà, on fait un échange, quoi, putain. Après, on aura des fights Batman Daredevil, quoi. Lexera donc nous
Là,
disait
dis donc, je vais déposer une plainte pour violation de mon copyright.
DC a su garder une culture du super vilain, voir le docu à leur gloire avec la magnifique narration par Christopher Lee il y a quelques années. Je suis pas le dernier à clasher Didio, loin de là, mais faut au moins
Oui, nous
reconnaître
aussi.
ça. Les mecs ne sont pas tombés dans la veine du Marvel héros contre héros et continuent de bosser dans cette voie.
Ouais.
Effectivement, même
Mais
quand ils veulent
revenons
nous
à
faire
Clash
affronter.
Dan Didio, s'il te
Oui.
plaît.
Même quand ils veulent nous faire affronter les super-héros entre eux, ils trouvent toujours un moyen pour que ce ne soient pas les vrais super-héros. Preuve en est avec Forever Evil. Ce sont les super-héros d'une autre terre.
On a quand même eu la guerre des trois ligues avant.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui,
Ouais, c'est toujours quand
ça oui, c'est
même.
vrai. Non, j'avais oublié cet épisode douloureux.
C'est vrai que chez DC, ils ont quand même, comme a dit Lex Ayron, ils ont toujours su mettre un aspect super vilain, super criminel en face du héros, même si c'était des héros aussi en face, mais avec un côté méchant, alors que chez Marvel, c'est un peu, ah mais t'es pas d'accord avec moi, c'est toi le méchant dans l'histoire, tu vois, un peu les embrouilles de gamins au collège, tu vois. Ah mais t'es pas d'accord avec moi, c'est-à-dire que c'est toi qui es méchant, tu vois.
Je vais reprendre un exemple de Fear Itself. Je sais, je sais. Excusez-moi.
Mais
Ça fait
pourquoi?
mal.
Pourquoi?
Ça fait
Parce que,
mal.
une fois encore, c'est typique du Marvel qui aurait pu avoir une bonne idée, mais l'exploite très mal. Je me rappelle de cette scène, c'était dans le premier épisode de mémoire, où il y avait une espèce de montée de colère des gens. Qui étaient excédés par la montée des prix, par la montée du chômage, etc. Bon, c'était, c'était amené avec les pieds, quoi. Mais bon, ça avait le mérite d'essayer de toucher deux, trois sujets politiques, mais de façon très mal faite. Merci, Matt Fraction, de simplifier au point de rendre débiles les choses. Et on avait cette scène où Captain America se prenait une pierre sur la gueule, il faisait « Oh là là !» Et il se rendait compte en fait que les gens gueulaient et n'étaient pas possédés par des super-vilains, ils étaient juste excédés de tout. Ce qui était au départ une bonne idée, mais c'est à retrouver avec une exécution absolument à mourir d'ennui et de clichés et de simplifications dégueulasses. Et c'était dommage parce que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Mais voilà, c'est-à-dire que même quand Marvel a une idée... Où les super-héros vont affronter d'autres menaces que les super-vilains. De toute façon, on en revient aux super-héros qui affrontent les super-vilains, puisque possédé est devenu les Worthy. Et donc, les super-héros deviennent les super-vilains et s'affrontent entre eux. Et c'était dommage, c'était dommage. Laissez-moi nous parler justement de Trinity War.
C'est comme Original Sin, au final, sur le papier, tu te dis... Il y a un truc, tu vois, enfin, sur le papier, ça aurait pu être bien, mais... Non.
Bah, une fois encore, c'était un super vilain qui, soi-disant, lançait le truc, et on se retrouve avec des super-héros qui n'ont pas le même camp et qui s'affrontent. Parce que, bon, c'était quand même un super vilain qui révélait tous les secrets, quoi. Mais même quand ça part sur une idée de... Bah, il y a un vilain derrière, ah non, il faut encore que... on trouve que, finalement, le plus grand vilain de l'histoire, bah, c'était un gentil. C'est fou quand même, quoi. C'est fou qu'on en revienne inévitablement à ça. Le coup du gentil qui a fait, qui a trahi, etc., on l'avait déjà eu, hein, on se rappelle avec douleur de The Crossing. Mais.
Merci pour ce merveilleux souvenir.
Bah, entre Fear Itself et ça, c'est bon.
Où on apprend que Tony Stark était un méchant qui était contrôlé par Kang, etc., et il tuait plusieurs membres des Avengers. Mais je veux dire, là, ça paraissait presque sortir de nulle part. Peut-être un peu trop, justement, d'où le défaut de The Crossing, mais néanmoins, ça restait un peu novateur. Dans Original Sin, on a déjà lu ça l'année d'avant. Mais putain, mais où est le côté surprenant de la chose.
Mais déjà, je pense que s'il ne faisait pas autant de crossover, il n'y aurait pas cet effet d'essoufflement et je pense qu'ils arriveraient à un peu mieux se creuser la tête pour nous sortir des events qui nous marqueraient, quoi. Déjà, parce que Axis, franchement, ils n'auraient pas dû en faire un event, quoi.
Bah, il faut peut-être aussi arrêter les events constants. On te sort tous les ans, il faut sortir quelque chose de nouveau. Et tu n'as plus d'idées, donc tu recycles.
Et paradoxalement, ils nous ont vendu Axis comme un crossover. Et c'était dans les mags Spider-Man. Il y avait Spider-Verse qui passait limite incognito alors que c'était 10 fois plus meilleur que Axis, quoi. Et ça, par contre, qui était juste génial, ils ne nous vendent pas en crossover, quoi. Ils nous le vendent
en petit... Justement, Spider-Verse était... Spider-Verse était un crossover, ouais, tandis que Axis était un event. Et elle est là, toute la différence.
Oui, mais ils l'ont pas assez mis en... Ils ont mis Axis en avant... Alors que pour moi, Spider-Verse a été beaucoup plus important et a eu beaucoup plus de conséquences, même à ce jour, quoi.
Mais oui, mais c'est toujours une fois encore la bonne idée de Marvel de mettre en avant le truc qui va toucher le plus de séries, là où il y aura le plus de tie-in possible pour vendre un maximum. Parce qu'un truc qui reste dans son coin, bah, ça va vendre quoi, 4-5 séries. Merde, attends, et comment on va payer nos retraites, quoi, chez Marvel? Tu avais... mis aussi, Sam, comme idée, dans les affrontements chez DC, le JLA, JSC, Vice and Virtue, donc il devait s'appeler Vice et Vertu en français, je crois, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, Vice et Vertu.
Si tu veux en dire un mot.
C'était en 2003-2004, ils avaient lancé ça avec l'autre titre que j'ai cité dans le conducteur, qui était Wonder Woman, Nikitaya, qui est aussi un... qui amène aussi un affrontement entre super-héros, et on a en fait les deux schémas, c'est-à-dire possession d'un côté et divergence politique, on va dire ça, de l'autre. Et c'était deux titres qui m'avaient marqué par leur qualité déjà, parce que c'était tous les deux d'excellents titres. Et voilà. Voilà. C'est pour ça que ça m'avait marqué, parce que c'est quand même deux histoires qui sont excellentes.
Moi, je n'ai pas lu.
Mais je pense qu'on...
Mais toujours Iketaya. Je réponds à Warren Ellipse, surtout.
Ah, juste... C'est Warren Ellipse qui nous disait justement qu'il allait le citer. Il y a un indispensable. De toute façon, en même temps, voilà. Hein. Tu n'es pas objectif, Sam.
Bah non, jamais avec Greg Ouka. Pourquoi je serais objectif, hein? Faut pas être objectif quand c'est toujours de qualité.
Pour la peine, tu me reliras 10 fois Fear Itself, s'il te plaît.
Non.
Tu vois, Sam ne va pas. Sam ne va pas faire 10 Je vous salue Marie. Il va relire 10 fois Fear Itself, quoi.
Il va pas en ressortir bien, Sam.
Ouais, non, il va s'arrêter à la page des crédits.
Il va y avoir un crossover Comic City, on va tous se taper dessus.
Mais je pense qu'on a relativement fait le tour. Il y avait peut-être 2-3 idées dont on n'a pas parlé. J'avoue que je commence à avoir les yeux plus trop en face des trous.
Moi non plus, mais je crois qu'on avait le tour. On avait le tour historique. Et surtout, on a fait. Je crois qu'on a mis en avant la différence entre Marvel et DC.
Je sais Marvel... que vous vouliez parler du nouveau crossover à venir aussi. J'ai vu ça, X-Men Inhumains.
Ben oui, enfin, c'est Civil War 2, quoi, grosso modo. Hein.
D'accord. Moi, personnellement, j'essaie de pas trop suivre les news par rapport à ça, étant donné que déjà que les events sont pas très fameux, je préfère avoir un minimum de surprises.
Mais grosso modo, donc, sans spoil vraiment ou presque pas, pour vous lecteurs VF, dites-vous que Secret Wars va se terminer le mois prochain. Vous allez avoir quelques mois de répit pendant que nous lecteurs VO, on va en reprendre plein la gueule pour un deuxième event. À peine Secret Wars finit.
Quelques mois, 6 mois. Hein. 6 mois.
À peine. Le dernier.
6 mois, il y a Standoff.
Ouais, enfin Standoff qui vient de se conclure, qui a duré l'espace d'un mois à peine, un mois et demi.
Mais qui était un crossover entre Titan Avengers.
C'était un crossover entre Titan Avengers. C'était pas un event, contrairement à Civil War. Oui. Civil War et ses 42
tailles. Et puis une fois Standoff terminé, on enchaîne sur Civil War 2. C'est logique.
Mais avec Standoff, vous aurez une partie de bon. Avec Civil War 2, on peut pas juger, on l'a pas encore lu. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
Oui, il y a toujours le thème politique, donc ça. Moi, personnellement, ça peut me plaire.
Ouais, enfin, le problème, c'est que Bendis nous a prouvé ces dernières années que quand il écrit du mainstream, il est absolument pas fin. Du coup, je veux dire, Bendis qui touche à un thème politique, je m'attends à une politisation à la Matt Fraction dans Fear Itself, quoi. Ouais. C'est-à-dire un truc vraiment mais tellement simpliste que tu entends au bar PMU à côté de chez toi, quoi.
C'est ça.
Genre, c'est tous, de toute façon, les politiques, c'est tous les mêmes.
Après 5 pastis.
Voilà, c'est ça, quoi.
Et du coup, non, moi, pour... alors, je sais pas si c'est un rapport pour les X-Men. J'ai vu l'image teasing avec le X rouge. Donc, je sais pas si c'est un rapport avec le crossover.
On n'en sait rien pour le moment.
D'accord.
Bon. Vraisemblablement, ça arrivera après, mais on ne sait pas encore.
Ah oui, donc, en effet, entre Civil War 2, le truc X-Men Inhumain, Standoff et ça...
Oui, mais attention, il faut vraiment pas confondre...
Pas vraiment de répit, quoi.
Dans la logique marvelienne, il faut vraiment pas confondre event et crossover. C'est pas la même chose.
Mais c'est toujours pareil. T'as pas de répit.
Ah ben oui, t'as pas de répit. Non, mais je suis d'accord. Mais dans leur logique
c'est
à eux...
C'est ça que je voulais dire, c'est que il y a pas de répit. Ouais, mais surtout que Secret Wars est un énorme truc. Et tu te dis, bon, ben, tu vas avoir une pause. Ils vont nous foutre la paix pendant longtemps.
Oui, tu auras une pause de 5 mois en français.
Voilà, ben non.
Non, mais c'est que quand même, vraiment dans leur logique, un crossover n'est pas la même chose qu'un event. Pour eux, ils n'ont pas l'impression que c'est un event, le fameux event fatigue dont parlent tous les lecteurs. Qui d'ailleurs, quand ils y répondent, ils disent bah non, il n'y a pas d'event fatigue. La preuve, vous continuez d'acheter, donc on va continuer. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Peut-être espoir.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez que Marvel ou DC ou n'importe quelle autre boîte, même si il y en a pas trop qui font ce genre de choses là, mais voilà, vous voulez qu'ils se calment sur les events, bah les achetez pas. Mais le problème c'est que les gens les achètent, donc pour eux ça marche, donc ils continuent.
Parce que comme je te disais en début de biotech, les bastons de super-héros, bah, c'est un indémodable et ça se vendra toujours, tout simplement.
Ouais.
C'est con, hein. Mais c'est comme ça.
Mais du coup, là, vraiment, bon, on aurait pu citer plein d'autres trucs. Hein. On aurait pu parler de Secret Wars premier du nom, même s'il y avait quand même plutôt un affrontement super vilain, super héros. Voilà, on aurait pu parler de Contest of Champions. On aurait pu parler plein de choses.
Du premier Secret Wars.
Le premier Secret Wars, c'est une bonne chose, parce que dans le sens, la raison, c'est en gros, le dernier qui survivra aura tous ses vœux exaucés. Et là, pour le coup, tu vois vraiment le vice des héros à se foutre sur la gueule parce qu'ils veulent plus leur... certains veulent ça, quoi. Veulent voir leur souhait réalisé, quoi. Donc c'est plus... là, c'est pas une raison politique comme ça peut être dans Civil War. C'est une raison... question de vice, on va dire, pas de d'égoïsme, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un bon exemple, je trouve.
Est-ce à dire qu'en 1985, on était plus inspiré qu'en 2015? Non, quand
même. Tu crois?
Quand même. On peut pas dire ça. Quoique. Oui, tu allais dire, Corwin?
Ça se tente comme hypothèse. Hein.
Ben voilà, je pense qu'on a largement fait le tour. On avait dit on tiendrait pas une heure, on a fait une heure et quart. Bon, ben,
on peut aller mourir là?
Ah ben non, on va enchaîner sur une autre émission. Je sens le désespoir de Sam.
Oh les yeux quoi.
Vous avez atteint la messagerie de Sam, veuillez rappeler un autre jour.
On est déjà un autre jour, Sam, on est samedi.
Ah merde.
Oh,
veuillez rappeler la semaine prochaine.
Oh. On se retrouve donc le mois prochain pour une prochaine dose de Review VF, le mois de mai qui promet d'être gigantesque. Reste à voir si on fera un sujet bibliothèque, on en a pas encore parlé. Honnêtement, vu le nombre de sorties, il est possible que la bibliothèque passe à la trappe pour laisser place aux nouveautés et aux sorties de ce mois de mai hyper imposant.
Peut-être qu'on veut revenir aussi à une mission qui fasse moins de 3 heures.
Ouais, de toute façon, on glissera un mot sur la fin de Secret Wars et l'ensemble du. Le Secret Wars. Oui, Secret Wars. L'ensemble du crossover. Secret Wars était vachement mieux quand même, putain. À croire que dès que tu rajoutes une lettre, ça devient chiant. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez un mois.
De la mort,
du coup, comme d'habitude, hein, si vous nous envoyez des mails, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Les mails, nous y répondons dans l'émission Le Weekly News qui est diffusée en direct tous les lundis soirs à partir de 21h. Vous retrouvez aussi pour les fans de VO le Comics Weekly tous les jeudis soirs à partir de 21h également. D'ailleurs, on a une tradition dans les lives, on aime bien les lancer à 21h. Je prends ma voix la plus suave possible, tu vois. Dimanche prochain, dimanche 8 mai, vous aurez le podcatch. Ce fameux podcatch de l'amour qui reviendra sur le prochain pay-per-view qui sera diffusé actuellement le demain. Puisque nous sommes déjà
le samedi.
Le 1er mai, donc le fameux payback. Est-ce que ce sera bien la vengeance ou pas? On en parlera donc dans le podcatch qui sera diffusé dimanche 8 mai. Et puis, le 10 mai, ne le ratez pas. Hein. C'est one night only, comme disent nos amis les Allemands. Il est vraiment trop tard pour que j'essaye de faire des vannes.
Laisse tomber.
Ah déjà qu'à 21h, elles n'étaient pas très fameuses, mais alors à 1h du matin, laisse tomber. Quoi.
Oh là 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 là, oui, c'est clair.
Il est trop tôt pour ces conneries.
Ouais, ça va être ça, en fait. J'ai pas encore assez dormi pour aujourd'hui. En même temps, bon... On a eu qu'une heure de journée. Donc le 10 mai à 21h, un Comic City spécial, un Comic City hors série. Donc pour le moment, je réserve encore un peu le thème. Mais j'ai mon chien qui s'excite, qui vient de se mordre. Excusez-moi.
Donc ça sera sur les chiens qui s'excitent et qui se mordent.
Mais disons que...
Ils font des choses sur les silos.
Disons que comme voilà, je vais donner un petit indice, comme mon chien va faire actuellement, il y aura des cris. Je n'en dirai pas plus. Et je ne parle pas, bien sûr, de la race de l'univers Marvel. Avant que ça... voilà.
Moi, j'ai pas pensé à ça personnellement. Je sais pas si c'est moi qui l'ai esprit tordu, mais.
Ben non, tu parleras de Stargate. Jaffa crie.
Oh, c'est ça. Merde. Oh, mon sujet est spoilé. Alors voilà, rendez-vous le 10. Je redonnerai une petite info sur le thème. Voilà, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je le dis ce soir, allez, ce sera sur les styles origines. Putain.
Ça va te porter longtemps.
Ah, mais j'adore ce titre, quoi. Je le trouve tellement classe. Je suis tellement déçu qu'il ne l'ait pas utilisé, quoi. Putain. Ah, ce sera le nom de mon émission, Style Origine. Bref, voilà, plein de podcasts à venir dans les prochaines semaines. Faites-vous plaisir. Faites-vous des bisous. Faites pas comme ces super-héros qui se tapent les uns les autres. Faites-vous des bisous et réglez les problèmes par la discussion. Même si des fois je.
Marvel devrait faire des crossovers où ils font tous des bisous.
Oh, ça serait bon ça.
Avec des licornes et des petits bisounours.
Ce serait bon ça. Infinite Kiss Kiss. Marvel, je te le donne, c'est cadeau. Bendis, si tu veux, on pourra t'appeler Ben Kiss après, comme ça.
Oh non,
ouais, j'ai tenté, j'avoue. Allez, pour le Free Comic Book Day, faites tous un bisou sur le crâne sans poil de Brian Michael Bendis.
J'ai cru que t'allais pas dire ça.
Donnez-lui de l'amour. Après, vous l'embrassez où vous voulez. Hein. Donnez-lui de l'amour pour qu'il nous écrive quelque chose de bon. Essayez d'y croire encore, même si c'est difficile. J'avoue que c'est difficile. On se retrouve le mois prochain pour ce mois de mai. Merci à Corwin, à Laure et à Sam de m'avoir accompagné 4h15 durant.
Et on a battu le record la dernière fois.
Je n'ai pas envie de rendre cette antenne. Peut-être qu'on va continuer encore.
Tu veux nous tuer, c'est ça.
Quoi, vous êtes fatigué? Oh.
Moi, je suis en forme, moi.
Oh, on n'est pas fatigué.
Oh, on n'est pas fatigué. Sam, il va crever, il va décéder en pleine antenne.
Je suis vieux, moi.
Oh.
Moi aussi, Sam, moi aussi. J'ai passé 30 ans.
Oh là là.
Eh ben oui, on est tous des vieux. Mais voilà, on essaye de vous donner un maximum. J'espère que cette émission vous aura plu. Comme d'habitude, hein, les commentaires pour réagir à cette émission si vous l'écoutez en replay. Et puis, bah, toutes les anciennes émissions sur le site ainsi que sur iTunes, qui remarche toujours pour le moment. Espérons que ça continue. Gavez-vous de podcasts, profitez-en. J'aime bien faire des montées comme ça pour réveiller les gens, tu sais, qui sont peut-être endormis un peu là. Hop là.
Hein, Sam?
Et puis, je l'ai déjà dit, les mails, podcast@comiccity.fr, en y reprenant le Weekly News, et puis le Facebook, le Twitter, tout ça, c'est de l'amour, c'est beau. À 1h du matin, je suis amoureux de mon public, de mon auditorat.
Et après, c'est moi qui suis fleur bleue.
XP78 qui nous dit sur le chat, et vous voyez, il y a encore des gens sur le chat qui nous écoutent en direct à cette heure si avancée de la nuit.
XP, c'est un vrai.
Comic City, c'est le Bruce Springsteen du comics infatigable.
Ouais. Ouais, parle pour toi. Hein.
Et je pense que cette citation nous convient tout à fait.
Sam, il est prêt à débrancher le micro et il est en pyjama déjà.
Ouais.
Sam, il est en push tout le temps, qu'il est tendu, tu sais, appuyé sur sa touche là. Vas-y, dès que c'est fini, je lâche la touche et je saute dans mon lit.
Il est dans les starting blocks, il a les chaussons de près. Il est prêt à foncer dedans pour aller se coucher. Je l'imagine trop, tu sais.
Je vois Alexandre sur le chat qui dit « Steve se venge de la fois où il était seul, abandonné, il refuse de lâcher l'équipe. » Ah, oh, mince, je suis grillé. Allez, on se retrouve le mois prochain, cette fois-ci, c'est la bonne. Passez une très bonne fin de nuit et un très bon mois pour ceux qui nous écoutent en replay. Et rendez-vous pour ce mois de mai qui s'avère être apocalyptique. Oh, la vanne.
Oh là là.